Donc le prochain intervenant est Pierre Collet. Il travaille au sein du laboratoire exploration et recherche en détection de l'ANSSI, donc Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, sur des thématiques de détection d'intrusion, dont notamment l'application de méthodes d'apprentissage automatique au système de détection d'intrusion. Et il va vous présenter ses travaux intitulés Auto Features, Knowledge Driven Automatic Feature Engineering for Detection Systems.
Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'AutoFeature, une méthode de génération automatique d'attributs destinée au système de détection. Donc ce travail a été fait conjointement avec Anaël Bognon au sein du laboratoire exploration et recherche en détection de l'ANSSI. Donc tout d'abord, parlons un petit peu de machine learning dans les systèmes de détection. Alors, quand on définit un système de détection, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un ensemble de règles qui vont nous permettre de lever des alertes en fonction de données d'entrée. Donc, exemple tout simple, on prend un fichier .exe, par exemple, un fichier PE, et on veut le classer selon une cible de détection, bénin ou malveillant. Le problème, c'est que de créer des règles de détection, en fait, c'est super coûteux parce que ça demande de la connaissance métier et ça doit être fait manuellement par un expert. Et en plus de ça, il faut recommencer ce travail de création des règles si on change de données d'entrée. Donc c'est normal, en fait, si on classe des PE, ça ne va pas être la même chose. On ne va pas avoir les mêmes règles de détection que si on classe des PDF, par exemple. Et si la target change aussi, il va falloir recréer ces règles parce que les règles de détection ne vont pas forcément être les mêmes si on veut classer un .exe, par exemple, en tant que bénin ou malveillant, comparé à appartenant à telle famille de malware ou à telle autre famille de malware. Alors là, en général, on commence à penser au machine learning, parce qu'en fait, le machine learning, ce que ça fait, c'est que ça crée des règles, enfin un modèle de détection automatiquement à partir de données d'exemple. Donc là, par exemple, on lui montre plein de fichiers PE, et on lui dit lesquels sont bénins, lesquels sont malveillants, et ça va créer automatiquement un modèle de détection. Sauf que le problème, c'est que les algorithmes de machine learning, ça ne prend pas en entrée des données brutes. Ce que ça prend, c'est des tableaux de valeurs numériques ou catégorielles dans certains cas. Et ces valeurs numériques, en fait, représentent des propriétés ou des caractéristiques en fait, de ce qu'on cherche à classifier. Donc par exemple, exemple tout bête, si on veut classer des pommes en fonction de leur variété, ce qu'on se rend compte, c'est que la couleur, par exemple, la taille, le poids, on pourrait dire le taux de sucre, etc., ça peut nous aider à classer les données. Donc on va définir il y a un expert qui va créer une méthode d'extraction d'attributs qui va nous transformer les données brutes en tableau d'attributs discriminants. Donc là, on a le poids, le nombre de pépins et puis la couleur en codé. De la même manière, pour un fichier PE, ce qu'on peut faire, c'est prendre, par exemple, la taille du fichier, le nombre d'exports, le nombre de sections, ou la taille de la section texte. Le problème, c'est que créer cette méthode d'extraction des attributs, en fait, c'est aussi très coûteux. Et de la même manière que tout à l'heure, ça demande de la connaissance métier, et ça, la méthode d'extraction des attributs peut changer, en fait, en fonction des données d'entrée, et puis aussi de la target de détection. Donc en fait, on se retrouve avec ça, on a finalement du machine learning, mais on a un gros travail manuel qui est fait par l'expert en amont. Et du coup, bon, on a repoussé un petit peu le problème, mais ça reste le gros du travail. Donc alors, des algorithmes de machine learning, il en existe plein. Il y en a des plus complexes que d'autres. Et par complexe, ce que j'entends, c'est qu'on peut leur déléguer un peu plus le travail de feature engineering parce qu'en fait, en interne, ils ont plus de liberté pour améliorer leur précision de prédiction. Donc en fait, ce qui est mécanique, c'est que plus on leur laisse de liberté et plus ils se font une représentation interne du problème qui n'est pas celle d'un expert et du coup qui est loin de la compréhension d'un être humain, on va dire. Et du coup, on va perdre en interprétabilité du modèle. Or, en fait, quand on fait un système de détection, en fait, c'est important que le modèle soit interprétable parce qu'il faut pouvoir analyser les alertes. Si un jour, le modèle marche bien et que derrière, un jour, le modèle se met à lever plein d'alertes, il faut pouvoir analyser pourquoi, parce que bon, sinon, il est à mettre à la poubelle. Deuxième chose importante, déléguer tout le travail, en fait, de création du modèle de détection, un algorithme de machine learning, je pense que c'est utopique. L'expert, il a beaucoup de connaissances qu'il faut utiliser. Et donc voilà. Et du coup, donc là, on est un peu bloqué. On est toujours obligé de faire cette partie de feature engineering, en fait, qui est très coûteuse. Et du coup, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'abaisser les coûts, le coût en fait de création de cette méthode d'extraction des attributs. Et donc, je vous présente AutoFeature. Du coup, l'idée à la base, c'était qu'est-ce que je peux générer comme feature si mes données sont déjà en base de données. Parce que oui, en fait, dans un système de détection, il n'y a pas juste des règles de détection, il y a aussi des parseurs qui vont nous transformer les données brutes en données structurées. Et en fait, les parseurs, ça contient déjà beaucoup de connaissances métiers. Par exemple, ça connaît les différentes structures d'un fichier. Donc, par exemple, dans un PE, il va avoir un header. Ça le sait. Ça va connaître les types des différents champs. Donc, si on a des flags, par exemple, ça va être considéré comme des valeurs catégorielles, les différentes strings dans un fichier, par exemple, etc. Et puis aussi, très important, ça va connaître les relations entre les fichiers. Donc, par exemple, un fichier PE, ça a un PE header, mais ça peut avoir plusieurs sections. Alors, à partir des données structurées, c'est assez facile, en fait, de le convertir, ces données structurées, cette représentation structurée interne à un parseur, de le sortir sous la forme de schéma relationnel. Donc là, ce que vous voyez là, en fait, c'est un schéma, je pense que ça parle à ceux qui font un peu de base de données. En gros, c'est une définition de table pour de l'analyse réseau, en fait. Donc, ce que vous voyez là, du coup, on a une table... Alors, pardon, petit focus. Ce que vous voyez là, donc, on a des IP. On a des IP avec lesquels communiquent d'autres IP à travers des flows. Et dans ces flows, bah, du coup, on peut avoir plusieurs paquets. Ce qu'on veut faire, c'est créer en fait des features pour chacune IP pour voir en fait, bon, bah, s'il se passe quelque chose d'anormal. Donc, les IP sont dans la table en rouge. Les relations, les types de relations, là, sont autour des flèches. Et donc, à côté des IP, on a aussi une relation 1 qui permet de juste rajouter des métadonnées. C'est-à-dire, là, par exemple, on a l'IS number et le pays de l'adresse IP. Donc, le but, c'est, à partir de ce schéma, ce Entity Relationship Diagram, de sortir, en fait, tout un tas de valeurs numériques scalaires. Donc, comment on fait ? Ça se passe en 4 étapes. Donc, 1, on va collecter la donnée, potentiellement la filtrer. Ensuite, cette donnée qui sera sous la forme de potentiellement une liste, on va l'agréger pour obtenir une valeur scalaire et on va ensuite l'encoder pour obtenir une valeur numérique. Donc un tout petit peu de formalisme. Ici, on a un joining pass, c'est ce qui nous sert à aller chercher la donnée dans le Entity Relationship Diagram. Donc en gros, là, on a le chemin qui commence à la table TRoute, c'était TIP tout à l'heure, enfin c'était à la table IP tout à l'heure, qui suit les relations pour passer jusqu'à la table T1, etc., jusqu'à la table target TI, qui contient la colonne cible C. Exemple, du coup, ici, on a, du coup, on parcourt de la table IP, on va aller dans la table flow, chercher la colonne numbyte, qui est ici. Et du coup, on obtient la taille de tous les paquets, en fait, pour chacune des IP. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est prendre un subset de ces données. Donc par exemple, si on veut juste les paquets qui sont impliqués dans les communications utilisant UDP, bah, on peut définir un filtre en utilisant une colonne catégorielle qui se trouve ici. Ensuite, ces données, en fait, du coup, on a une liste de données. Et ce qu'on veut faire, c'est la transformer en données scalaires. Donc on applique une fonction d'agrégation, tout bête, en fonction, et il en existe plusieurs. Enfin, on en a là une petite liste. En fonction des types de données qui sont dans la liste. Donc si numérique, on peut appliquer min, max, min, etc. Pour les booléens, on peut faire AND, OR, etc. Exemple, du coup, si on applique la moyenne sur, ce qu'on avait, sur la liste qu'on avait récupérée tout à l'heure, on obtient du coup la taille moyenne des paquets. Petite parenthèse, on peut aussi en fait, imbriquer des agrégations les unes dans les autres pour obtenir des features qui sont un peu plus complexes. Donc on va obtenir une feature qui va être un peu moins interprétable, quoique là, pour l'instant, ça va. Mais ça va permettre de faire des choses plus complexes, quoi, tout en restant quand même un peu interprétable. Donc là, on a la moyenne du nombre de paquets par flow. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on fait un count de chaque paquet. et on groupe par flow ID, et ensuite on fait la moyenne globale. Donc ensuite, au niveau de l'encodage, simple. En fait, si on a une donnée numérique, par exemple la durée totale des flows, ça nous fait une donnée numérique, on peut directement l'utiliser en tant que feature. Si on a une donnée booléenne, on va encoder, par exemple, là, est-ce que l'IP a utilisé le protocole UDP ou pas, oui, non. On va encoder true en 1 et faux en 0. Et puis en face, si on obtient une feature qui est de type catégoriel, on va encoder ça en, je crois qu'on appelle ça one vs all. Par exemple, là, on a trois valeurs, TCP, UDP, ICMP. On va créer trois features binaires qui vont dire est-ce que la valeur c'est, par exemple, isTCP, isUDP et isICMP. Du coup, on mettra tout à zéro, sauf la valeur que c'est. Donc là, dans notre cas, c'est isUDP à 1. Et donc ici, la feature, c'est le protocole le plus utilisé. Pardon. Donc ça, c'est comment on construit une feature. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'expert puisse injecter ses données. Alors, on peut le faire de deux manières. La première manière, c'est par du pré-processing. Alors, pré-processing, en fait, c'est juste rajouter des colonnes à côté des autres colonnes existantes. Donc, par exemple, ce qu'on peut calculer, c'est des ratios. Une proportion, ça peut être plus intéressant qu'une valeur brute. Deuxième exemple, on peut transformer en fait des types qui sont difficilement exploitables. Par exemple, des strings, ça va être difficile de faire une feature, de calculer quelque chose avec. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir la transformer, par exemple, en nombre. On va compter le nombre d'espaces, l'entropie, le nombre de majuscules, etc. Et dernière chose très importante, transformer les valeurs les valeurs non exploitables comme ça en valeurs discrétisées, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de créer d'autres filtres. Donc là, vous avez un exemple où on a transformé le timestamp en during office hour yes/no. Et donc, du coup, ça va nous permettre, par exemple, d'aller chercher, comme tout à l'heure, les paquets qui sont uniquement hors des office hours, en fait. Deuxième manière, on a un système de black and white listing, en fait, qui va nous permettre de, par exemple, retirer toutes les colonnes qui peuvent, toutes les features qui sont biaisées. Par exemple, alors là, on n'est pas du tout sur le schéma de tout à l'heure, parce que j'avais pas d'exemple. Si par exemple on étudie des processus, faire la somme des PID de processus, ça n'a pas de sens. Donc déjà ça on peut le blacklister, enfin l'expert peut le blacklister, parce qu'il n'y a que lui qui le sait que c'est biaisé, pour pouvoir les retirer de la génération. Autre chose, on peut aussi retirer les features qui sont un peu trop complexes, donc variance de variance, ça me semble pas très interprétable, on peut aller plus loin que ça. Et dernièrement, du coup, en whitelist, ce qu'on peut faire, c'est du coup l'expert peut choisir. Moi, ce que je veux, c'est aller explorer telle région dans le herd. Donc là, il y a une petite faute sur le schéma. Désolé, c'est pas section. Mais par exemple, on pourrait dire d'aller uniquement faire les features qui étaient dans la table info de tout à l'heure. Donc c'est pour éviter de chemin. Alors, ce qu'on a pris du coup en exemple, c'est qu'on s'est dit, si on prend un jeu de données public et qu'on y injecte des connaissances issues, par exemple, de la littérature, qu'est-ce qu'on obtient comme feature? Et donc, le nombre de features générées est trop grand, je ne vais pas pouvoir toutes vous les lister, mais je vais vous en lister quelques-unes dans un instant. Alors comme jeu de données, on a pris Amber. En fait, c'est un jeu de données avec de l'analyse statique d'une grosse quantité de PE. En fait, ça contient plein d'informations et aussi des features déjà créées par les auteurs du jeu de données. Ça a été fait avec, ces données ont été extraites avec le projet LIF, Library to Instrument. Je crois que c'est QuarkSlab qui l'a fait. Et voyons voir. Alors le herd qu'on a fait pour matcher le jeu de données, c'est celui-là. Donc ça se sépare en deux parties. Ici on a en gros toutes les données qui sont des métadonnées. Ils sont en relation 1-1 avec les fichiers PE. Alors oui, je ne l'ai pas dit. Ça c'est nos instances, donc c'est les fichiers PE. C'est pour ça qu'on va créer des features. Et du coup, tout ça, c'est des choses qui sont déjà créées en fait par les auteurs du jeu de données. Donc par exemple pour les strings, on va avoir le nombre de strings, la taille moyenne, le nombre de MZ trouvés dans le PE, etc. Et à droite, on a du coup toutes les relations 1N. Donc en fait, on va avoir du coup trois tables. La première, c'est tous les exports, les imports et les sections. Et du coup, tout cela, ils sont en relation à N, donc il peut en avoir plusieurs par PE. Alors, pour le côté pré-processing, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une publication de Zachary et Hall qui donne, par exemple, une liste de 16 API calls suspicieux. En fait, ils analysent dans les malwares la fréquence de certains appels système Windows. Et du coup, on a utilisé cette liste pour discrétiser symbole qui était une valeur textuelle en fait, une string, et du coup qui était non exploitable en l'état. Et là, ça nous permet de créer du coup des filtres. Deuxième exemple, on a créé là deux nouvelles colonnes, une qui va dire est-ce que le symbole d'export est un syscall Windows ou est-ce que ça fait partie de la runtime library. Donc ça, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça peut, enfin une feature qui contient des exports comme ça, enfin un PE qui contient des exports comme ça, ça a tendance à être plutôt bénin. Et enfin, pour la table d'export, par exemple, on a discrétisé les noms de sections pour obtenir du coup en noms de sections standards, enfin qui sont assez connus, pour pouvoir du coup les exploiter plutôt que d'utiliser une donnée textuelle directement. Et enfin, les propriétés sont sous la forme de textuelles, et du coup on a créé des chaînes. Alors là, c'est pas les seules deux flags qui existent, mais c'est juste un exemple. Par exemple, ces deux flags, le premier dit est-ce que la section elle est exécutable et le deuxième est-ce qu'elle est writable. Et donc voici une liste d'exemples de features qui sont générées. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, mais bon, je vais en passer sur une ou deux. Par exemple, vous voyez qu'en 3 et 4, on a en fait ce qu'on a discrétisé tout à l'heure qui est utilisé. Donc en fait, ce que ça veut dire, 3, c'est est-ce que le PE fait un import de getProcAdress. Pareil pour le 4, c'est est-ce que ça fait un import de load library. Et donc tout combiné, on donnera ça à l'algorithme de machine learning qui, lui, va pouvoir pondérer, combiner les différents attributs. Ensuite, par exemple pour le 5, ce que ça dit, c'est est-ce que l'ensemble des exports du PE, c'est des syscall Windows. Et du coup, ça voudrait dire que c'est plutôt bénin, par exemple. Et puis ensuite, en ce qui concerne les sections, par exemple, là, ça va calculer la moyenne, l'entropie moyenne des sections exécutables ou le maximum l'entropie maximum des sections exécutables. Voilà. Et du coup, en conclusion, en fait, donc AutoFeature, en fait, c'est une méthode de génération automatique d'attributs destinée aux experts en sécurité. Ça tend à faire baisser le coût de la génération d'attributs, donc la création de méthodes d'extraction, tout en gardant en fait tout en générant des features qui sont interprétables. Et en utilisant les données experts. Pardon. Et alors pour la suite, on aimerait faire plus d'expériences avec plus de jeux de données. Et puis cet espace de features qui est généré, il y a un aspect combinatoire là-dedans. Du coup, il est très grand. Et on peut explorer cet espace de plein de manières différentes. Et voilà, ça c'est un autre axe qui est très intéressant et je pense qu'il est pour la suite. Donc je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?
Pas de questions ? Donc justement, à propos de cet espace des features qui est très vaste, est-ce que vous avez déjà des idées pour explorer l'espace des features ?
Ouais. Alors, actuellement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, On essaye de faire des features les plus simples aux plus complexes, c'est-à-dire celles qui ont le moins d'agrégation et celles qui ont le moins de filtres. Parce que, par exemple, rajouter plein de filtres, ça tend à faire des features qui ressemblent à des signatures et qui vont faire tendre à de l'overfitting de l'algorithme. Et du coup, c'est mieux de commencer à regarder les features qui ne sont pas trop complexes en premier. Mais bien sûr, après, on peut imaginer des méthodes où on va dans une région, on collecte des données, on regarde s'il y a quelque chose d'intéressant et si on peut affiner ce résultat en changeant d'autres paramètres, en fait. Donc, par exemple, rajoutant un petit filtre, ce genre de choses. Et aussi, dernière chose, on peut essayer de faire ça, mais en considérant les labels des données du dataset d'entraînement.
Il y a une question en bas à gauche. Hop.
Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir, si je ne me trompe pas, il y a des algorithmes de deep learning qui sont capables déjà de calculer des filatures à la base de données. Est-ce que vous avez fait des comparaisons entre votre méthode et ces algorithmes?
C'est-à-dire un algo de deep learning à la place de,
oui.
À la place de l'outil.
À la place de auto-filatures, oui.
Ouais, alors non, je n'ai pas testé. Après... Comment on le guide? En fait, là, le truc, c'est que dans mon cas, là, il y a quelque chose de prédictible. On sait ce que ça va générer. Ça va être quelque chose de, on va dire, compréhensible. Je pense qu'il faudrait rajouter un peu de précision sur qu'est-ce que fait cet algo de deep learning, parce que bon, je pense que c'est un peu... Enfin, qu'est-ce qu'il devrait faire en sortie, en fait? Qu'est-ce qu'il générerait? Parce que si on lui demande juste une feature, c'est un peu vaste. Du coup, s'il peut faire n'importe quoi, il peut nous sortir n'importe quoi, et du coup, quelque chose de peut-être pas forcément très pertinent.
Oui. Par exemple, quand on est capable de dire avec un jeu de données, en disant, en validant des données en avance, il va être capable de calculer les filatures, en fait. Si on lui dit, on prend un jeu de données vierge et on lui dit, on fait l'algorithme à sa place dans un premier lieu. Après, il est capable de calculer les features qui sont les plus importantes, de mettre des statistiques là-dessus.
Mais de choisir les features les plus importantes.
Normalement, il y a des algorithmes de deep learning, si je ne me trompe pas, qui sont capables de faire ce genre de choses.
Alors, comment le deep learning, ça retire l'étape d'ingénierie des features. Enfin, ça retire. Oui. Ça diminue largement. On peut, par exemple, dans le cas de données, genre des signaux, les images, enfin tout ce qui est signaux, ce qu'on fait en général, c'est qu'on met les données brutes dedans. Ça va se charger de mapper ça dans dans un vecteur discret, si je ne me trompe pas. Et ensuite, bon, ça fait sa tambouille en interne. Oui. Le problème, c'est que ça, on ne peut pas interpréter tellement. Je sais qu'il y a des travaux là-dessus, mais on ne peut pas interpréter facilement, en fait, une prédiction qu'il a faite. C'est-à-dire que si un jour ça se met à faire plein d'alertes, c'est ce dont je parlais au début, on ne va pas forcément pouvoir interpréter pourquoi il a levé l'alerte. Et du coup, dans un système de détection, ça, c'est gênant pour les experts. C'est quelque chose qui a été rencontré. Enfin, en interne, c'est quelque chose qui a déjà été soulevé, en fait.
Très bien. Il y a encore une dernière question.
Bonjour, merci pour la présentation. Tu as parlé du dataset Amber.
Ah. Ouais, bonjour.
Du coup, tu as fait des nouveaux features par rapport à ce dataset. Est-ce que tu as comparé LGBM sur les... Tu vois, ils proposent un algo de détection Amber qui va avec leur dataset.
Ouais, alors en fait, ils ont entraîné un algo tout bêtement, sans trop se donner de la peine, pour montrer qu'il y a des données à l'intérieur. Je critique pas du tout, hein. C'est juste pour montrer qu'il y a de l'information à l'intérieur, et ça marche. Alors en fait, le truc, c'est qu'en première partie, eux, ce qu'ils font, c'est que pour traiter en fait tout ce qui est là, les tables, pardon, tac, c'est peut-être un peu loin. Je crois que c'était là. Pour traiter ces tables-là, par exemple, qui sont en relation à N, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent du feature hashing. Donc, en gros, ils vont mapper les valeurs dans des tableaux, en fait. Ça marche, enfin, c'est comme un hash, quoi. On map, en fait, des valeurs dans un domaine fini, quoi. Et du coup, en fait, ça empêche normalement, enfin, ça empêche l'interprétation derrière, quoi. Parce que du coup, bon, les valeurs sont mappées en d'autres valeurs, et du coup, bon, bah, ça représente plus rien, et donc voilà. Mais ça veut dire que, et en plus, les tailles de tableaux sont du genre 2048.
Non, mais j'ai du mal à m'exprimer. En fait,
on va devoir ces données-là, conclure.
Ils ont un algorithme, pardon.
Oui, allez-y, finissez. Mais
ils ont un algorithme de détection de malware qu'ils utilisent sur ces données-là avec ces features.
Ouais, alors ils ont ces features-là.
Ouais, et ils utilisent un algorithme de détection de malware dessus. Ça aurait été intéressant d'utiliser le même algorithme de détection sur tes features à toi pour comparer le score.
Ouais, SVM, ouais.
Non, LGBM ils utilisent.
Oui, ok, d'accord.
Donc ça aurait été intéressant juste pour comparer.
Oui. Bah, en fait, ça, c'est, on va dire que c'est derrière, quoi. Une fois que les features sont générées, exactement, on le donne à n'importe quel algorithme, ouais, dont ça, effectivement. Ouais. Mais, oui, t'as raison.
Je vous propose de prolonger le débat, enfin la discussion.
Pardon.
Non, il n'y a pas de. Au contraire, c'est ce qu'on souhaite, qu'il y ait le maximum d'échanges à l'issue des présentations. Et là, on est tenu par le timing, donc voilà.
J'ai piqué la bouteille.
Bah, merci beaucoup.
Merci.